R. L'édition locale, l'actualité du Vivre à Tignes. Olivier Sauva.
Bonjour à tous et bienvenue dans votre édition locale. Ce mercredi, rencontre avec Michael Jérémiaz, légende de l'handisport qui s'est offert au cœur de ce mois de février. 3 semaines de vacances en famille dans notre station. Et quand on dit le mot légende, on pèse nos mots puisqu'au-delà de son titre paralympique décroché en tennis fauteuil en 2008, Michael a été numéro 1 mondial en simple et en double, mais aussi porte-drapeau de la délégation française aux Jeux paralympiques de Rio en 2016. Si c'est en faisant du ski que Michael Jérémiaz a perdu l'usage de ses jambes, il conserve une forte passion de la discipline. Vous l'avez d'ailleurs sans doute croisé ces derniers jours sur les pistes puisqu'il est capable d'évoluer en autonomie sur le domaine skiable. Grâce à son bob, on aura l'occasion d'en reparler prochainement dans un autre numéro de l'édition locale. Dans un premier temps, on va faire connaissance avec ce monstre sacré du paralympisme en le laissant revenir sur son parcours.
J'ai appris à skier à l'âge de 2 ans, dès que j'ai pu faire quelques pas, mes parents m'ont mis sur les planches. Et donc 16 ans plus tard, à Avoria, c'était le 7 février 2000, il faisait pas très beau ce jour-là et avec mes frères, mon cousin et un pote d'enfance, on a décidé d'aller skier et on s'est réfugié dans un snowpark. On n'est pas surfeur, mais on se disait qu'il n'y a pas de raison qu'ils aient des meilleurs sauts et moi j'ai toujours été un peu le casse-cou de la bande. Et donc avant de partir et de rentrer à rejoindre la famille, on a fait un petit concours de saut avec Stan notamment, le grand pote. Et c'était des big air, 3 big air, et moi j'ai pas freiné entre les big air et le dernier je me suis littéralement envolé, on va dire ça comme ça. Après, je suis monté à 8-10 mètres de haut et j'ai pas atterri dans la descente du big air mais sur le plat parce que je suis parti trop loin et à ce moment-là je me suis cassé les deux jambes et la colonne vertébrale et c'est comme ça que je suis devenu paraplégique à l'âge de 18 ans.
Très vite tu décides de poursuivre une activité sportive, l'accident il a eu lieu en 2000 et t'es passé pro en tennis en 2001.
Ouais, j'étais joueur de tennis depuis l'âge de 5 ans, j'avais un bon niveau régional. Jusqu'à 10-12 ans, j'étais un meilleur français. Et puis après, l'adolescence, il y en a qui grandissent, il y en a qui draguent. Moi, j'ai pas grandi, donc j'ai dragué. Et donc voilà, j'étais seconde série et j'ai découvert par hasard le tennis en fauteuil en centre d'éducation. J'ai rencontré le directeur sportif de tennis fauteuil qui est venu me voir. Il m'a parlé de ce sport. Je savais même pas que ça existait. Autant de dire qu'à l'époque, c'était pas très médiatisé. Et je me suis lancé dans le tennis en fauteuil. J'avais pas très envie au début. C'était très frustrant de pas pouvoir battre les gars que j'écraserais si j'étais debout parce que je maîtrisais pas encore la manipulation du fauteuil. Et après ça, j'ai pris goût. Je me suis entraîné à fond tout en continuant ma rééducation, tout en continuant la fac. Et un an et demi plus tard, je devenais champion de France de tennis fauteuil et c'était le début de 15 ans de carrière.
Ouais, un beau parcours. Hein. Vous tiens notamment remporté les 4 tournois majeurs en double et 4 médailles paralympiques, classé numéro 1 mondial. Voilà, c'est un joli petit CV quand même. Hein.
Ouais, non, c'est sûr. Il y a eu la première médaille en bronze à Athènes en 2004, puis le lendemain suivi d'une médaille d'argent en double avec la Seine Majdi. L'année d'après, je devenais numéro 1 mondial en simple et en double. Ce qui, pour un joueur de tennis, c'est la consécration, c'est-à-dire que t'es le meilleur sur toute l'année. Et en 2008, avec Stéphane Houdet, on remporte la première médaille d'or de l'histoire du tennis, tout tennis confondu. Et je continue ma carrière. 2012, la 4e médaille en double à nouveau en bronze. Et en 2016, pas de médaille, mais je finis porte-drapeau de l'équipe de France paralympique, donc la plus belle consécration pour moi.
Ouais, ça devait être quelque chose là d'entrer dans le stade en premier, en tête de cette délégation française.
Ouais, c'est un moment magique, ce stade Maracana, stade mythique de football à Rio, et donc oui, je suis le premier à rentrer, il y a une délégation de plus de 130 athlètes et c'est mon moment. Et en fait, ça a été un tournant parce que c'est l'année où la médiatisation du paralympisme explose. À Athènes, on avait 15 minutes en différé sur France 4 à minuit et à Rio, on a eu 100 heures de direct. Et donc moi, je m'en suis servi comme une tribune politique et ça a été l'accélération de mon engagement politique, militant pour le droit des personnes handicapées.
C'est ça qui est intéressant dans ton parcours, c'est que t'es un vrai témoin de l'évolution de ces disciplines, qu'elles soient sur les Jeux paralympiques d'été, mais aussi les Jeux paralympiques d'hiver.
Ouais, bien sûr. Après, moi, j'ai tout de suite enchaîné avec la candidature de Paris 2024. Et donc, j'ai travaillé comme consultant et comme ambassadeur, puis membre de la commission des athlètes. Ça a été une aventure de presque 10 ans, tout en développant mes activités entrepreneuriales et associatives. Et pour vivre le plus bel été qu'on aurait pu rêver, les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, où j'ai été le chef de mission. Et j'étais un peu le porte-parole du mouvement paralympique. Et là, j'ai embarqué une délégation de plus de 250 athlètes. Et là, pour le coup, c'était vraiment, vraiment magique.
Ouais. T'as dit le mot, c'est un véritable engagement politique. C'est vrai qu'on a tendance à penser que c'est normal, l'inclusion du public en situation de handicap. Mais pas du tout, il a fallu se battre et jouer des coudes.
On s'est battu auprès du COJO. Moi, je me suis battu. Alors, je ne me suis pas battu contre eux, je me suis battu avec eux. Ça a été de les acculturer au monde du paralympisme, à la réalité de ce qu'une personne en fauteuil et des personnes handicapées ont besoin, parce qu'il n'y a pas que des athlètes en fauteuil roulant au jeu. Et donc, pour moi, ça a été un outil politique puissant pour justement transformer la société, de se servir de ces jeux comme un accélérateur. La réalité, c'est qu'il s'est passé plein de choses pour accéder justement à ces jeux-là. On a construit plein de choses, on a aménagé plein de choses, on a ouvert les esprits du grand public, sauf qu'une fois que les jeux terminés, il y a eu une trahison politique pour le coup, du président, des gouvernements successifs, de nos ministres de tutelle. Il n'y a rien eu, il n'y a eu aucune politique publique forte engagée et on peut aujourd'hui parler d'un non-héritage des jeux de 2024, ce qui est catastrophique. catastrophique. Alors oui, ça fait moins de 2 ans, donc j'ai bon espoir que ça continue et qu'on puisse arriver à inverser la tendance. Mais à l'heure actuelle, on ne peut pas dire qu'il y a eu un héritage fort des Jeux Paralympiques.
Mickaël Jérémiaz, médaillé d'or en tennis fauteuil aux Jeux Paralympiques de Pékin en 2008 et porte-drapeau de la délégation française aux Jeux Paralympiques de Rio en 2016. On termine cette édition locale avec votre agenda. Le festival Montagne et Sciences fait son retour à Tignes la semaine prochaine. Un rendez-vous qui se tiendra ce mardi 3 mars à partir de 20h au complexe Tignes Espace avec 3 films documentaires qui seront projetés. Les Lumières de Valo, L'Aigle d'Hokkaido et Rêver d'eau pure. C'est un rendez-vous entièrement gratuit mais on vous invite à réserver en ligne sur le site tignes.net si vous souhaitez assister à ces projections. On reviendra sur ce festival prochainement dans votre édition locale. On a fait le tour de l'actu sur la planète Tignes. Excellente journée avec la radio station.
L'édition locale, également en podcast sur laradiostation.fr.